Afin de découvrir l'île-Dieu plus en détail en juillet et en août, le service patrimoine de la mairie de l'île-Dieu organise différentes visites guidées et de monuments ainsi que des animations pour tous les âges et tous les goûts. Pauline Geoffry, agent du patrimoine, guide conférencière au service patrimoine à la mairie de l'île-Dieu, bonjour.
Bonjour.
On commence avec des visites guidées Saint-Sauveur au fil des ruches.
Alors, Saint-Sauveur au fil des rues, c'est une de nos visites classiques hein, qui existe depuis un certain temps.
Depuis combien de temps?
Oh, bah, ça doit bien faire une douzaine d'années, même plus que ça peut-être. Mais elle a un peu évolué quand même au fil du temps, ne serait-ce que parce que l'église a été restaurée dans les années 2010. Donc depuis, il y a un petit peu plus de choses à voir dans l'église. Il y a les peintures murales par exemple.
Notamment les fresques.
Tout à fait, les fresques, ouais. Et l'idée, en fait, c'est de se retrouver près de l'église, de commencer cette découverte de Saint-Sauveur en faisant un petit tour de l'église, parlant un peu de son histoire. Mais Saint-Sauveur, c'est aussi la capitale ancienne de l'île-Dieu, hein, jusqu'à la Révolution. Donc, il y a pas mal de choses à dire sur les activités économiques de l'île sous l'Ancien Régime, la vie, en fait, des îlets à cette époque-là, et comment, en fait, la transition vers de nouveaux métiers, les métiers de la mer, s'est produite à l'époque moderne. Et ensuite, ben, pour ouvrir la voie après, à la période de la pêche qui arrivera plutôt au 19e siècle.
Vous parlez également de l'architecture.
On parle de l'architecture traditionnelle. Donc à Saint-Sauveur, il y a plusieurs maisons qui datent d'il y a une centaine d'années en gros. C'est ça les maisons qu'on appelle l'architecture traditionnelle. Et il y en a plusieurs qui sont plus anciennes encore. Et on peut en observer deux ou trois durant la visite pour voir un peu à quoi elle ressemblait.
Cette visite Saint-Sauveur au fil des rues s'adresse à un public à partir de quel âge?
Alors, c'est une visite pour les adultes. Si des enfants de 7-8 ans viennent assister à la visite, je pense qu'ils trouveront quelques informations qu'ils pourront retenir et comprendre sans trop de problèmes. On s'adapte hein, à ce jeune public. Des enfants un petit peu plus jeunes, ça va être un peu complexe pour eux, mais parfois, les parents ne peuvent pas les faire garder. Donc, on prend aussi, bien sûr, des enfants un petit peu plus jeunes et on essaiera de faire en sorte qu'ils découvrent au moins quelques petites choses, notamment peut-être les peintures murales ou les maisons. Il y a une photo du cheval à moustache dans le livret aussi, c'est sympa.
À découvrir donc Saint-Sauveur au fil des rues. Autre visite pour les adultes plutôt, c'est la Meule et sa tradition orale.
Alors la Meule, c'est pareil, c'est une visite d'à peu près 2 heures. Alors là où celle de Saint-Sauveur, on arrive à faire 2 heures, 2 heures, la Meule, il faut marcher un peu plus parce que la visite n'est pas une boucle. On commence à la chapelle de la Meule, on la termine à la Roche-aux-Frats et ça fait déjà pas mal de marches. Et comme c'est une visite sur 2 thèmes, on a beaucoup de choses à dire puisque on va parler de la tradition orale, donc des contes et légendes de l'île-Dieu. On va raconter plusieurs légendes.
Notamment les froids.
Alors l'histoire de la roche aux froids, hein, c'est pour ça qu'on va jusqu'à la roche aux froids qui n'est pas tout près du village, c'est tout l'intérêt. Et c'est un endroit très intéressant cette pierre parce que c'est aussi une pierre gravée à l'époque de la préhistoire, donc il y a plein de choses à dire à ce sujet-là.
C'est plein d'énigmes.
Voilà, il y a et plein de choses dont on ne sait absolument pas la réponse, on ne sait pas trop à quoi ça servait à la préhistoire ces pierres, mais on peut du coup évoquer ces différents mystères et raconter la légende qui est très, très sympa, très amusante. Et on parle aussi, dans cette visite-là, un petit peu de l'histoire du port de la Meule, de la chapelle de la Meule, bien sûr, et un peu aussi d'architecture traditionnelle. C'est toujours un petit élément qu'on retrouve dans nos visites, qu'on développe plus ou moins en fonction de l'endroit où on va, des questions des gens, etc.
La Meule et ses traditions orales à découvrir en juillet et en août. Autre port, de Port-Breton à Port-Joinville.
L'autre visite, effectivement, de Port-Breton à Port-Joinville, c'est une visite de village, là aussi, et c'est un peu la suite de Saint-Sauveur au fil des rues, puisque pour le Saint-Sauveur au fil des rues, on est à l'époque moderne, et Port-Breton à Port-Joinville, c'est l'époque contemporaine, c'est-à-dire on est plutôt au 19e et au 20e siècle dans cette visite-là. On va parler des aménagements du port, la manière dont ça va évoluer. Et on va parler également du développement de la pêche au 19e siècle et ensuite au 20e siècle. On va parler des conserveries, etc.
Donc, notamment de la pêche au thon.
Alors, on va parler de la pêche au thon, puisque c'était la pêche reine à l'île-Dieu, la pêche au thon germon, hein, le thon blanc, dès la deuxième moitié du 19e siècle.
De Port-Breton à Port-Joinville. Une visite guidée plutôt pour le jeune public, initiation à la pêche à pied en famille.
Alors la pêche à pied, c'est vraiment la visite à faire en famille. Elle se fait sur deux plages différentes, donc il faut bien faire attention au lieu de rendez-vous qui est précisé lorsqu'on achète sa place à l'office de tourisme sur le ticket.
Elle se fait où cette visite?
Alors à la plage de la Gournaise ou à la plage de la Pulante selon les jours. Les deux plages sont situées sur la côte Nord-Rois, c'est la côte qui est entre Port-Joinville et la Pointe du But. C'est une côte qui est très intéressante pour cette pêche à pied pédagogique. Je précise qu'on ne va pas finalement pêcher des choses pour pouvoir les manger. Ça, si les gens veulent faire, on les laisse faire en autonomie par leurs propres moyens.
Vous ne pêchez pas les cabous, quoi?
Alors non, les cabous, maintenant, on les laisse un peu plus tranquilles depuis le Covid, en fait. Parce qu'on s'est aperçu qu'on était peut-être un petit peu trop... Les cabous, ils avaient un petit peu baissé de taille. Donc, on en attrape parfois à l'épuisette, mais on ne fait plus la pêche à la ligne au cabou. Mais par contre, on va passer pas mal de temps à découvrir différents animaux dans les fosses. Et depuis quelques années, on trouve... des limaces de mer.
C'est quoi des limaces de mer?
C'est des petits mollusques gastéropodes. Des limaces de mer et des dorés, c'est très très proche comme espèce. C'est parfois des tout petits animaux qui vivent sous les pierres, sous les algues. Et de temps en temps, on en trouve qui ont des couleurs un peu flashy depuis quelques années. Et dans d'autres cas, on en trouve des un peu plus marrons, les aplysies, qui sont des limaces de mer qu'on trouve sur ces plages depuis assez longtemps. Il y en a... Voilà, selon les années, selon, je pense, la température de l'eau et peut-être la météo, on n'a pas tout à fait les mêmes espèces. On voit aussi des étoiles de mer, il y a des crabes. Enfin, on montre aux enfants comment attraper les crabes, aux parents aussi. Parfois, je leur fais manger des algues. Enfin, les guides leur font manger des algues, puisqu'il y en a quelques-unes qu'on peut consommer sur la plage pour leur montrer un petit peu, leur faire découvrir cet univers-là, en fait. Et aussi, les bonnes pratiques, bien sûr, puisque...
Remettre les rochers en place.
Exactement. Quand on veut attraper un crabe, on retourne au rocher, puis après, on est en train d'attraper le crabe, et puis après, on a oublié. Sauf qu'il y a des petits animaux qui vivent sous le rocher qu'on a retourné. Ces petites larves de bêtes de la mer, si elles sont exposées au soleil, elles vont mourir. Donc il faut bien penser à remettre le rocher comme on l'a pris, dans le bon sens et tout. Et,
ce que tu nous dis, ces rochers, c'est des habitats.
C'est des habitats pour les petites bêtes qui vivent sur cet estran.
Initiation à la pêche à pied en famille. Est-ce que les limaces de mer, ça se mange, Pauline?
Non, ça se mange pas, puis t'as pas envie de les manger, en fait.
Je crois que j'en ai jamais vu. Faudrait que je fasse l'initiation à la pêche à pied.
Ah ben voilà, t'es invité.
Des bêtes, pas si bêtes pour rester dans la nature, Pauline.
Alors, autre visite nature, autre visite pour le jeune public. Les bêtes pas si bêtes, c'est une petite découverte des insectes. Les petites bêtes qui vivent sous nos pieds, qui vivent dans l'herbe, qui vivent dans la terre, à proximité des mares, dans les petits bois. Enfin, le site où se déroule la visite, c'est près de l'ancienne bergerie de Kerpoirot, pas très très loin de la ferme d'Émilie, mais... vraiment plus du côté des vieux bâtiments qui sont près de la route du vieux château. Eh bien, à cet endroit-là, vous avez une petite prairie, un petit bois, une petite flaque, enfin une petite mare, où la guide qui fait la visite, qui s'appelle Sandrine, va pouvoir faire découvrir plein d'animaux différents. Et c'est vraiment pour le jeune public, histoire de comprendre en fait quels sont ces insectes, à quoi ils servent. Ils sont pas toujours très ragoûtants, mais ils ont un rôle à jouer dans la nature. Donc c'est important de les respecter, de les connaître, de les découvrir. Et ça peut être marrant aussi d'essayer de les attraper, de les mettre dans les petites boîtes à loupes dont on dispose pour observer à quoi ça ressemble d'un tout petit peu plus près.
Sandrine, c'est une passionnée.
C'est une passionnée. C'est notre guide nature qui fait les bêtes pas si bêtes, mais aussi la visite ornitho. Et c'est vraiment une passionnée de tout ce qui est protection du patrimoine naturel et de la connaissance des animaux qui l'habitent.
Des bêtes pas si bêtes. On poursuit ces découvertes avec algues et industrie de la soude à Villedieuf.
On reste dans les visites nature. C'est une visite à deux voies. Il va y avoir deux guides qui vont animer cette visite. Sandrine qui s'occupera plutôt du côté pratique de la découverte des algues sur l'estran. Ce qui arrive en fait dans la visite dans un deuxième temps. Et en fait, dans un premier temps, c'est une autre guide qui va intervenir et qui va parler de l'histoire des soudiers à l'Île-Dieu, c'est-à-dire les personnes qui allaient sur l'estran pour prélever les algues et ensuite les faisaient brûler pour obtenir de la soude.
Les algues, ils les prélevaient avec des charrettes?
Alors, ils avaient des charrettes, ils utilisaient...
Et des chevaux?
des petits chevaux à moustache dont je parlais pour la visite de la meule, des petits chevaux à moustache dont je parlais pour la visite de Saint-Sauveur.
Ces chevaux à moustache, ils n'existent plus sur les lieux.
Non, ils n'existent plus, je pense qu'ils n'existent plus tout court, malheureusement, c'est une espèce qui a dû disparaître. C'était au 19e siècle, une espèce qui venait de Bretagne, des petits chevaux assez élégants et qui avaient développé des moustaches. C'est vrai, ils avaient vraiment des moustaches. Parce qu'il mangeait des jeunes pousses d'ajonc. Hein, l'ajonc, c'est une plante très piquante. Mais les jeunes pousses, ça va. Les animaux pourraient les consommer. Mais par contre, à côté, il y avait les pousses plus anciennes qui avaient des longs pics. Et bien, pour se protéger de ces pics d'ajonc, les chevaux à moustache avaient développé ces moustaches parce qu'ils mangeaient ces jeunes pousses.
C'était une protection, quoi.
C'était une protection. Et puis, cette espèce animale a plus été utile par la suite parce qu'à l'île-dieu, on l'avait importée parce qu'elle se nourrissait de trois fois rien en fait sur les landes où on n'avait pas des bonnes pâtures pour des chevaux. Mais plus tard, à partir du 20e siècle, on va pouvoir faire venir des choses du continent et c'est pour ça qu'on avait moins envie de ces chevaux qui étaient plus petits. On estimait qu'il n'y avait plus le besoin et ces espèces ont été croisées avec d'autres et finalement, ça c'est, je dirais que leur génome, leur caractéristique génétique, c'est perdu, c'est un peu dommage, mais...
Algues et industrie de la soude, pour en savoir plus. Tout à l'heure, on parlait de Sandrine, on la retrouve avec la sortie Ornitho à vélo.
C'est ça, donc l'ornitho, hein, ça parle de soi-même, c'est une visite sur les oiseaux, bien sûr. Alors, il y en a très très peu en juillet et en août, hein. Ça va être vraiment pour les chanceux qui seront là la première semaine de juillet et les encore plus chanceux qui seront là le 20 août. Pourquoi ? C'est très simple, hein. S'il y a peu de visites, c'est parce qu'en juillet et en août, il y a beaucoup moins d'oiseaux à observer. Parce que les oiseaux, ce sont des oiseaux migrateurs qu'on voit passer sur nos côtes. Pas que, hein, bien sûr, l'île-dieu étant le premier endroit en Vendée pour la nidification des goélands. On en met moins parce qu'il y a moins d'oiseaux différents à observer. Le 5 juillet, il y en aura peu. C'est pour ça qu'on fait la visite le matin, parce que Sandrine va essayer d'emmener les gens voir des oiseaux autres que des oiseaux de mer, en fonction de ce qu'elle va trouver. Hein. C'est vraiment au cas par cas, en fait, elle construit sa visite pratiquement sur place. Et après le 20 août, eh bien, on aura déjà peut-être les premiers migrateurs qui commenceront à redescendre et passer par chez nous.
Sandrine, on l'a dit tout à l'heure, c'est une passionnée. Elle fait partie également de la LPO.
Tout à fait.
Les mystères de la citadelle, pour poursuivre Pauline.
Les mystères de la citadelle, c'est une visite thématique sur un thème vraiment historique, celui de la défense de l'île, hein, les fortifications que l'île-dieu va connaître au fil du temps, avec un focus tout particulier sur le fort de Pierre-Levé, qu'on appelle la citadelle, et qui date du Second Empire.
À découvrir donc en juillet et en août pour les mystères de la citadelle. On passe aux animations, Pauline, avec chasse au trésor à la meule.
Alors là, on est sur une chasse au trésor pour les enfants.
Hein, pour le jeune public.
Le jeune public. Donc la chasse au trésor à la meule, c'est, je dirais, peut-être plus pour les pré-ados, parce que c'est à partir de 9 ans, hein, l'âge où on va dire que les enfants vont pouvoir faire presque toutes les énigmes tout seuls.
9-12, quoi.
Ouais, voilà, 9-12, même franchement 9-18, hein, ça dépend des gens. Je pense que certains adultes ont pris autant de plaisir que leurs enfants à faire la chasse au trésor.
C'est sympathique.
Et c'est arrivé aussi qu'on ait des enfants plus jeunes. S'ils ont des grands frères, des grandes sœurs ou des papas et des mamans motivés pour les aider, l'objectif, en fait, c'est faire un petit tour dans la meule en famille, en résolvant des énigmes. Et à la fin, si on a bien réussi à trouver les bonnes réponses aux énigmes, on va pouvoir décrypter un petit code qui va permettre d'indiquer là où se trouve le trésor.
Le trésor, il se cache où ?
Ah bah, je ne dirais pas.
Je vais tenter. Chasse au trésor à la meule, première animation pour ces visites du patrimoine sur l'île-dieu. Chasse au trésor autour du cours du Moulin. Plein de chasse au trésor, Pauline.
Alors, on en a deux qui se font avec l'accompagnement d'un guide du service patrimoine, donc à horaire précis. Il y en a encore une troisième, hein, qui n'est pas dans notre brochure ni sur notre affiche, parce que celle-là, elle se fait en autonomie. Hein. C'est celle au port, donc les livrets sont à prendre à l'office de tourisme. Et après, les familles font la chasse en leur propre temps et ils font ça, donc, du coup, sans la présence de nos guides. Mais la chasse au trésor autour du cours du Moulin se fait bien avec un guide. Elle commence au fort de Pierre-Levé, encore une fois, et elle va permettre de découvrir une partie de l'île, vraiment dans le centre de l'île, qui est un petit peu moins sur les sentiers touristiques, on va dire. Là, on est
moins connu.
C'est moins connu, c'est moins traversé. Pourtant, il y a des choses intéressantes à voir, puisqu'on est autour de ce cours du Moulin qui est en fait tout simplement un endroit où vous avez de l'eau douce qui s'évacue vers la mer, donc on appelle ça la coulée verte à l'île-dieu, ou le passou, les gens disent, appellent ça le passou. Donc c'est toute une zone où vous avez une zone un peu humide en fait qui se dirige vers la mer. Alors vous n'allez pas marcher jusqu'à la plage du cours du Moulin, hein. Vous restez plus dans l'intérieur des terres, mais vous allez en fait circuler à proximité de cette zone-là et découvrir des petites choses, des petits éléments de notre patrimoine qui se trouvent dans cette zone.
Quels éléments ?
Alors par exemple, on entre dans cette chasse dans la chapelle Notre-Dame de la Paix, que les gens connaîtront mieux sous le nom de chapelle Saint-Hilaire ou Saint-Amand. Enfin bref, on l'appelle de plusieurs noms, mais le nom qui est écrit dessus, c'est chapelle Notre-Dame de la Paix, qui est une chapelle qui date de 1944, et vous avez de jolies œuvres d'art qui ont été réalisées par les habitants de l'île-dieu et qui sont à observer à l'intérieur de la chapelle.
Chasse au trésor autour du cours du Moulin, un escape game à la Citadelle.
Alors, l'escape game à la Citadelle, sa thématique...
C'est un carton.
Oui, c'est un carton plein. Toi, tu le sais bien parce que tu les vois arriver.
Exactement.
Partir.
Et... Il y en a qui sont toujours bloqués, hein, par contre.
Ah oui, bah écoute, on leur donne à manger de temps en temps.
Hein. De temps en temps, on est bien d'accord.
Voilà, et puis quand ils auront suffisamment fait le ménage dans le vieux
citadelle.
Château et dans la Citadelle, on les laissera partir.
Donc cet escape game, il parle de quoi, Pauline ?
Alors l'escape game, cette année, c'est sur le thème des colonies de vacances. Alors malgré le thème, c'est un jeu qui s'adresse plutôt aux adultes, hein, parce que c'est à partir de 13 ans, il est un petit peu compliqué. Puis bon, on s'en voudrait de garder des enfants en otage, c'est quand même embêtant.
Ouais, c'est un peu plus dur.
Ouais, c'est, ça nous fait trop de peine.
Colonie de vacances, donc qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il
faut Alors, faire ? Il faut savoir que le fort de Pierre-Levé a servi vraiment de colonie de vacances pour les familles de personnes qui travaillaient dans l'armée, hein, de militaires. Donc ça, c'était dans les années 1930 et à nouveau dans les années 50-60. Et du coup, notre créateur d'Escape Game a imaginé des enfants qui ont été punis par les surveillants et qui veulent absolument quitter l'endroit où les surveillants les ont mis au coin, les ont enfermés, et qui vont devoir résoudre plusieurs énigmes pour pouvoir y parvenir. Il faut arriver à résoudre toutes les énigmes en une heure.
Il y a certaines énigmes qui sont dures.
Alors, je n'ai pas encore testé celui-là, moi, personnellement. Mais oui, on m'a dit que ce n'était pas forcément facile.
Escape Game à la Citadelle. On poursuit avec Cherche et Trouve.
Alors là, on est toujours sur les animations, mais on passe vraiment sur les animations pour le tout jeune public. Puisque le Cherche et Trouve, c'est une animation qui s'adresse aux enfants entre 3 et 7 ans. Et c'est vraiment fait pour des enfants qui ne maîtrisent pas encore la lecture.
Ça se passe à la Citadelle ?
Eh bien, ça va se passer à la Citadelle et ça va se passer aussi dans un lieu mystère. Enfin, dans la brochure, le lieu n'était pas encore précisé, mais maintenant on le sait.
Parce qu'il
y a une période de l'été où la Citadelle est occupée pour le festival Viens dans mon île. Donc on a décidé, comme on n'a pas d'autres animations pour le tout jeune public, eh bien d'en créer un qui va se trouver près de la plage des Broches.
Et il faudra trouver quoi alors ? Des puces de mer ?
Non, parce que...
Non.
Alors là, si la marée est haute, pour le coup, c'est mort. Non, heureux pour le jeu.
Mais ça
va vraiment permettre aux petits-enfants d'observer ce qu'il y a autour d'eux. Donc, soit dans le fort de Pierre-Levé, on va faire la même chose aux Broches, mais avec des objets, des constructions, des choses, des endroits, des éléments qui se trouvent vraiment dans ce lieu bien précis. Donc, on a fait... la collègue qui a créé le jeu a fait une sélection d'objets ou de choses qu'elle pense qui vont interpeller les enfants. Ils vont pouvoir comprendre de quoi il s'agit grâce à ce petit jeu.
Cherche et trouve. Et pour ce jeune public, il faut être accompagné d'un adulte.
Alors, pour toutes nos visites, il faut toujours que les enfants soient accompagnés d'un adulte. Mais vous vous doutez bien que quand ils ont 3 ans, c'est vraiment impératif.
On reste avec le jeune public. À l'attaque, partez à l'assaut du château, c'est très sympathique à faire.
Voilà, alors ça c'est pareil, c'est une visite qui plaît beaucoup.
À l'attaque, partez à l'assaut du château. On reste au vieux château, enquête au château, Pauline.
Alors l'enquête au vieux château, c'est une visite pour le jeune public aussi au château, mais autant l'attaque est faite pour des enfants assez jeunes, on va dire entre 5 ans et 12 ans, l'enquête au vieux château, c'est à partir de 11 ans. Parce qu'on est un peu sur la même chose qu'un escape game. Je dirais que ce jeu, c'est un mélange entre une visite guidée, parce qu'il y a quand même pas mal d'explications que le guide va apporter tout au long de la visite, mais aussi entre une chasse au trésor et un escape game parce qu'il y a un temps limite. En une heure de temps, il faut avoir su trouver tous les coffres, ouvrir tous les coffres après avoir résolu différentes énigmes et avoir pu reconstituer les portraits de trois suspects pour essayer de déterminer qui, durant la guerre de 100 ans, a vendu l'île-dieu aux Anglais. Et les énigmes sont pas forcément faciles.
C'est ce que je voulais dire, Pauline. Enquête au vieux château, c'est à découvrir en juillet et en août sur l'île-dieu. Des monuments à visiter. On reste au vieux château, Pauline.
Alors, le vieux château, il va être ouvert en juillet et août, chaque jour. C'est pour ça que les visites assaut du château et les visites enquête qui doivent se faire hors des visites guidées, vraiment avec que le public inscrit, elles ont lieu assez tôt, elles sont à 10h, parce que le château ouvre aux visites guidées classiques à partir de 11h. Donc vous aurez en été une visite guidée à 11h, une à 11h30 et une à midi, et ensuite les visites guidées reprennent à 16h30, 17h et 17h30, et entre ces créneaux de visite guidé, vous avez un temps qu'on appelle les visites en autonomie où les guides ne donnent pas d'explications mais vont pouvoir accueillir les gens qui souhaitent juste faire un tour dans le château, les encaisser et puis bah, veiller à ce que tout se passe bien dans la sécurité pour chacune des personnes présentes dans l'édifice.
Le vieux château, les TPE, ça ne passe toujours pas.
Non, ça passe toujours pas et c'est mal barré pour que ça passe parce qu'en ce moment c'est pire que tout. Non, malheureusement les TPE ça ne passe pas. Donc si vous souhaitez faire la visite du vieux château, que ce soit la visite guidée à 6€ pour les adultes ou la visite en autonomie qui est bien entendu bien moins chère puisqu'elle est à 2€, eh bien il faudra vous munir de liquide hein, parce que pour le coup on est à l'ancienne. Bon, c'est pas encore des écus comme au Moyen-Âge ou des pièces d'or. On prend les euros, hein, je vous rassure. D'ailleurs, on ne prend que les euros. Je crois que si on amenait des écus ou des pièces d'or au trésor public, ils ne seraient pas super contents.
D'accord.
Et donc, la visite va vous permettre de vous immerger dans l'histoire de ce monument qui date du XIVe siècle, hein, donc de l'époque de la guerre de Cent Ans, et comprendre comment on vivait à l'intérieur autrefois.
Pour le vieux château, on finit avec le grand phare qui, lui, est ouvert tous les jours également en juillet et en août.
Tout à fait. Hein, le phare va être ouvert chaque jour. Alors, c'est pareil, ce sont des visites guidées. Alors, elles sont beaucoup plus courtes que celles du château qui durent 45 minutes. Là, on est plutôt sur 20 minutes de visite parce qu'il y a un nombre de places limité en haut du phare.
Et combien de places en haut du phare ?
15 personnes. C'est limité à 15 personnes. Donc, si vous arrivez, par exemple, à midi, il y a de fortes chances que le guide vous dise la prochaine visite, ce ne sera pas avant midi et demi, l'heure de la fermeture, donc ce sera la dernière du matin, parce que bah, il y a du monde, et puis une fois que c'est rempli, bah, on dit aux gens, voilà, on informe, il y a tant d'attente, et puis voilà, vous inscrivez, tac, vous prenez vos billets, vous passerez à telle heure, voilà. Et la visite va vous permettre de comprendre, en fait, bah, pourquoi on a construit un phare ici, à quoi il sert ce phare, et de découvrir également d'autres éléments de signalétique maritime qu'on voit depuis le haut du phare. Mais si vous n'êtes pas particulièrement intéressé par les explications et que vous voulez juste profiter de la vue, vous n'êtes pas obligé d'écouter toutes les explications.
Le grand phare est ouvert tous les jours sur l'île Dieu, on rappelle, en juillet et en août. D'ailleurs, le grand phare est ouvert aussi hors période estivale, Pauline.
Oui, bien sûr, le grand phare et le vieux château sont ouverts en dehors de l'été, alors d'avril à septembre seulement pour le phare, et le château va être ouvert d'avril à septembre et un petit peu pendant les vacances scolaires de la Toussaint, de Noël et de février, pas forcément beaucoup, ça dépend de différentes contraintes, mais on arrive toujours à programmer quelques visites. Mais le phare, on n'a pas le droit de l'ouvrir en dehors de septembre, enfin de la période d'avril à septembre. Par contre, en cette saison, hein, là actuellement, quand nous enregistrons, nous sommes encore
en juin,
eh bien, ce n'est pas ouvert tous les jours parce qu'on a tout simplement un peu moins de personnel et on fait aussi des visites quand même de terrain.
Pauline, où retrouver toutes les informations de ces différents rendez-vous ?
Alors, les informations, vous les trouverez à l'office de tourisme. Si vous voulez faire une visite de terrain ou des visites enfants qui se font au vieux château, c'est forcément sur inscription à l'office de tourisme.
Donc, c'est obligatoire.
Voilà, c'est obligatoire. Il faut vous rapprocher d'eux en vous rendant sur place ou par téléphone et vous pourrez prendre les renseignements et prendre vos billets, sachant que la plupart de nos visites sont ouvertes à partir du moment où on a trois adultes qui s'inscrivent. Si vous êtes que deux, peut-être si vous êtes les deux premiers, ils vous diront « Ah, attendez, on n'a pas encore assez de monde ». Mais bon, pour juillet-août, je pense que ça ne saurait tarder. Vous ne devriez pas avoir de mal à pouvoir vous inscrire sur les visites.
La brochure est disponible également.
La brochure, vous la trouverez à l'office de tourisme, mais nous avons aussi des affiches qui vous permettent d'avoir un résumé en fait, des différentes visites possibles, même si on ne rentre pas dans les détails, évidemment, sur l'affiche qui est déjà bien chargée. Du coup, vous la trouverez sur les panneaux d'affichage municipaux, dans certains commerces comme les supermarchés, par exemple.
Et il y a un QR code sur l'affiche.
Il y a un QR code comme ça.
Pour télécharger la brochure.
Exactement. Comme ça, si vous n'avez pas envie de vous embarrasser avec la brochure papier, vous pouvez la télécharger très facilement. Vous la trouverez également sur le site internet de l'Office de tourisme et de la mairie.
Il-Tirieux.fr.
Exactement. Et si vous souhaitez faire la visite du phare ou du vieux château, alors contrairement au reste de nos visites, ces lieux-là sont accessibles avec une billetterie sur place.
C'est important de le préciser, Pauline, agent du service patrimoine, guide conférencière au service patrimoine à la mairie de Lille-Dieu. À très bientôt.
À bientôt.